Digne héritière de l'illustre Sigmund, je suis heureux d'accueillir Madame Michelle Freud.
Merci. Bonjour. Chaque auteur, chaque conférencier, en général, traite d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. En ce qui me concerne, les histoires de mots du corps, pour moi, ce sont des histoires de cœur. Et je crois qu'il y a entre le corps et moi une longue histoire de cœur. Pendant des années, je me suis battue contre ce corps. Et j'ai commencé réellement à me réconcilier avec lui lorsque j'ai commencé à l'aimer. C'est d'ailleurs le thème du dernier ouvrage qui a paru chez Albin Michel. Mais j'ai surtout compris que je pouvais dépasser le poids des mots du corps, peut-être d'une histoire transgénérationnelle, c'est-à-dire le poids d'un nom. Et j'ai réussi à le dépasser, bien que... Alors, pour la petite histoire, ce matin, en quittant l'hôtel, Psychanalyse Magazine m'avait fait un joli badge avec mon nom, et je l'ai perdu. Alors, on m'a fait un très très joli badge. La talentueuse personne qui fait des si jolis dessins m'a marqué sur mon badge « Moi, rien que moi ». Donc mon nom, vous l'oubliez le temps de cette conférence, parce que je vais vous parler des mots du corps, des miens, des vôtres, des mots du corps que nous véhiculons. Notre éducation, en effet, nous a appris à ravaler nos larmes, à taire toute notre colère, nos émotions. Nous avons subi toutes sortes de pressions, pressions familiales, sociales. Bref, finalement, nous avons réagi à tout cela en nous taisant. Hein, tais-toi, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Nous avons enfui ces émotions. Nous nous sommes conformés, je dirais même aussi déformés. Puisque nous ne pouvions faire confiance à ce que nous ressentions, eh bien, on s'est tu. Hein, on s'est complètement plié et même replié, atteint la plupart du temps de ce fameux syndrome d'Atlas. Vous savez, l'image d'Atlas qui porte tout le poids du corps sur ses épaules. Eh bien, finalement, à force de porter ce poids, eh bien, de porter toutes ces douleurs, notre corps a réagi en raideur, en douleur, etc. Nous portons souvent dans notre sac à dos un certain nombre d'effets, je dirais, qui quelquefois ne nous appartiennent même pas. Et là, il est important d'arriver à faire le tri dans ce que nous portons. Hein, quelquefois, dire, tiens, je porte des choses, mais ça ne m'appartient pas vraiment, ce n'est pas à moi. Et c'est vrai que lorsqu'on commence à faire le ménage dans ce sac, on se rend compte qu'on véhicule beaucoup de choses. Nous sommes avant tout des êtres de langage. Nous avons besoin de dire les choses. Et comme nous n'arrivons pas à les dire, souvent, eh bien, c'est notre corps qui va être le support de ce message, qui va se charger, lui, de dire à travers un symptôme, à travers une douleur. Notre corps n'oublie rien. Il garde la trace de beaucoup de choses, et notamment, nous sommes sans immunité quelquefois contre certaines paroles, certaines choses qui ont été dites, qui nous ont été transmises, les non-dits, les peurs, les croyances et quelquefois les fausses croyances. Vous savez, dans certaines familles, lorsque par exemple, il y a une succession d'abandonnites, c'est-à-dire de femmes qui ont été abandonnées, eh bien, le message, la croyance qui a été véhiculée dans cette famille, c'est les hommes sont des bons à rien, ils sont pas dignes de confiance. Eh bien, ça, c'est une fausse croyance. Une fausse croyance un petit peu plus légère, je ne sais pas, vous la connaissez probablement, c'est cette jeune femme qui vient de se marier et qui coupe son rôti en deux au moment où elle le met dans son four. Et son époux trouve ça assez curieux, il dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette pratique? Et elle dit, mais c'est ma mère qui m'a transmis ça. Ah bon? Et la mère que l'on interroge dit, mais c'est ma mère à moi qui m'a transmis cette... Eh ben, on a toujours dans notre famille coupé le rôti en deux. Et la grand-mère qui est encore en vie et que l'on interroge dit aussi, mais c'est ma mère qui m'a transmis cela. Et l'arrière-grand-mère dit, eh ben oui, moi j'avais pas de plat assez grand, donc j'ai coupé mon rôti en deux. Hein, c'est aussi un exemple un peu plus léger de fausse croyance. Nos blessures, souvent les plus profondes, sont celles que nous n'avons pu exprimer aux personnes avec lesquelles nous aurions dû parler si finalement nous souhaitions l'écoute. Dans les thérapies, combien de fois on entend des gens dire « je n'ai pas pu parler à mon père » ou « je n'ai pas pu parler à ma mère, il est mort, il est parti, je n'ai pas pu l'accompagner ». Je songe notamment à une personne qui a dit au décès de mon père, j'ai pris 20 kilos. J'avais commencé une thérapie et je voulais absolument parler avec lui, m'acquitter d'une certaine dette. Et il est mort avant que je ne puisse le faire. Eh bien, j'ai pris 20 kilos. C'est 20 kilos de colère que j'ai stocké. Et il lui a fallu encore quelques années de travail sur son corps pour arriver à pardonner, pour arriver à comprendre hein, qu'elle pouvait... nous parlions hier lors d'une conférence de la pulsion de mort ou de la pulsion de vie. Eh bien, ça peut s'accumuler. Ça peut effectivement être cette notion d'un accompagnement loupé, raté, qui est de l'ordre de quelque chose qui plombe dans une pulsion de mort. Et puis, on entend aussi des gens dire « Moi, j'ai pu accompagner mon père ou j'ai pu accompagner ma mère. » Et là, on est plus dans la... Quelqu'un m'a dit récemment « J'ai accompagné mon père et aujourd'hui, je ressens une grande joie. » Là, on est dans la pulsion de vie, vous voyez, dans la pulsion de... C'est la joie que l'on ressent. Et c'est vrai que cet accompagnement, aussi douloureux soit-il, lorsqu'on peut liquider ou parler ou déposer ce qu'on n'a pas osé dire, ce qu'on a pu exprimer, eh bien, on se sent en paix. L'être qui part nous quitte, mais il part en paix lui aussi. Et nous, nous avons l'impression d'avoir un fardeau que nous avons allégé.